Radio Grand Ciel présente Art et Histoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois le général Gallet qui va évoquer pour nous l'église Saint-Pierre de Courcerault. Général Gilles Gallet, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, je sais que vous avez été attaché de défense à Moscou dans les années 2000 et en poste auparavant à Varsovie. Et maintenant, vous êtes dans le Perche. Aujourd'hui, vous allez nous faire visiter l'église Saint-Pierre de Courcerault. Alors, peut-être d'abord, dites-nous comment vous êtes arrivé à Courcerault et comment vous avez été amené à aimer cette église et à vouloir en parler.
Eh bien, j'ai été amené à Courcerault, dans le Perche, pour deux raisons. La première, familiale, mon épouse est d'origine percheronne, mais plutôt du côté du Perche de l'Eure-et-Loire. Et la deuxième, eh bien, c'est grâce aux chevaux. Je suis un grand amateur d'équitation et de chevaux. Quand je suis rentré en France après un séjour à l'ambassade de France à Moscou, j'ai ramené deux chevaux russes. Je cherchais une très belle campagne où les héberger et où pouvoir profiter de très beaux chemins. Et de ce point de vue-là, le Perche est idéal et la région de Courcerault s'y prête bien. Courcerault est un village typique du Perche. C'est une bourgade assez ancienne et on retrouve beaucoup de des très belles choses, des paysages percherons. Courcerault, pour vous situer, se trouve au milieu d'une sorte de triangle entre Mortagne, Bellem et Rémalard.
Vous êtes à combien de kilomètres de Mortagne ?
Alors nous sommes à 13 km de l'entrée de Mortagne, à 11 km de l'entrée de Bellem et à peu près 11 km de l'entrée de Rémalard.
Et votre ville de ressources pour vous ?
Alors la ville de ressources, et ça a commencé par être Bellem, ensuite Mortagne et c'est maintenant de plus en plus Bellem.
Très bien. Alors Courcerault, c'est, donc vous disiez que c'était une bourgade très ancienne. Vous remontez à quelle période ?
Eh bien, c'est difficile de préciser, mais si on s'en tient à l'origine étymologique du nom Courcerault, les spécialistes que l'on peut lire dans les ouvrages sur le Perche disent que ce nom a une origine un peu mérovingienne. Voilà. Sinon, les premières mentions, ben, dans les années 800-900, à cette époque-là, Courcerault faisait partie des possessions de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.
Oui.
L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés avait beaucoup de possessions, on va dire, dans l'ouest de la France, mais de part et d'autre, de la vallée de la Seine, et quelques-unes qui descendaient un peu dans le Perche, mais elles étaient plus rares.
Oui, d'ailleurs, il y a un livre qui a été fait par Philippe Boudet qui raconte justement tous ces prieurés qui existaient auparavant.
Tout à fait. Et donc, Courcerault faisait partie de cette dépossession de cette abbaye. Et il y avait même, à Courcerault, dont le site s'y prête, une église et un ensemble d'édifices religieux qui n'ont pas tous subsisté, mais que l'on retrouve dans les noms de rues du village que l'on peut retrouver dans l'histoire de certaines fermes ancienne. Donc l'église actuellement de Courcerault se trouve sur une espèce de promontoire. De part et d'autre de l'église, il y a un côté où l'on parle, il y a rue du presbytère, et de l'autre côté, il y a une rue du prieuré qui mène un peu plus loin, donc sur une largeur de 200 mètres, de part et d'autre de l'église. Tout ça, c'était un grand édifice religieux. Et si on se met dos à l'entrée de l'église et qu'on regarde le paysage en direction de Mauves-sur-Huisne et de Mortagne au Perche, on aperçoit une très belle ferme ancienne qui s'appelle Bernuche et qui se trouve à...
Ça veut dire quoi, Bernuche ?
Bernuche, aucune idée. Mais qui se trouve à 600-700 mètres de l'église. Et il existe un livre très ancien sur l'histoire de cette vieille ferme et on peut y lire que pas mal d'ouvriers du prieuré, et le prieur lui-même avait leur résidence dans cette très vieille ferme.
Ah oui, c'est voilà très intéressant. Vous avez fait des recherches qui vous ont demandé certainement beaucoup de travail.
Mais en fait, j'ai trouvé des éléments dans des feuilles plus ou moins volantes qui se trouvaient à la mairie. Mmh. J'ai lu la très belle histoire du Perche, mmh, où l'on parle un peu de Coursereau. J'ai eu accès à ce livre-là que l'occupant actuel de la ferme de Bernuche m'a fait lire. Mmh. Et puis maintenant, il y a Internet où on trouve toujours quelques petits traits intéressants.
Alors, comment s'appellent les habitants de Coursereau ?
Alors, ils s'appellent les Courseraldiens, mais c'est ce que je lis sur ce document ici. Mais on peut aussi dire les Courseraldais.
Ah oui.
Voilà.
Courseraldiens, j'aime.
Courseraldiens, ça passe bien. Voilà.
Et d'ailleurs, maintenant, ça n'est, enfin, Coursereau, ça n'est plus Coursereau, c'est ça.
Alors, Coursereau est encore un très beau village, mais il n'a plus le statut de commune, puisque dans le cadre des regroupements des collectivités territoriales qui s'est opéré il y a 2 ans, Coursereau s'est associé à 3 autres petits villages qui sont Boissy-Maugis, Saint-Maurice-sur-Huisne et Maison-Maugis pour fonder une nouvelle commune qui s'appelle Cour-Maugis-sur-Huisne. Et maintenant, nous sommes bien en peine pour savoir comment nommer les habitants, d'ailleurs, de Cour-Maugis-sur-Huisne. Ce n'est pas trop évident. Alors, Coursereau lui-même, le village, actuellement fait environ 170 habitants.
Oui.
Et puis, je me souviens, à l'époque, donc, où Coursereau avait le statut de commune, sur la liste électorale, il y avait quand même pas loin de 130 ou 140 votants.
Ah oui.
Ce qui aurait voulu dire que Coursereau était un village très vieux. Mais en fait, dans les 170 habitants, il y a pas mal de... Non, il faut rajouter aux 170 habitants beaucoup de résidences secondaires.
Ah oui,
comme c'est un village très vert, nous avons beaucoup de résidences de la région parisienne et nous avons au moins 3 ou 4 habitations avec des Anglais qui vivent là de façon plus ou moins temporaire. Mais Coursereau, si on se reporte au temps ancien, par exemple à la fin du 19e siècle, Coursereau possédait 773 habitants. Donc c'était vraiment une commune
les campagnes
assez
étaient
nombreuses.
Très peuplées à cette époque.
Les campagnes étaient très 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 peuplées et il y avait beaucoup de ressources. Coursereau est bâti au pied d'un massif boisé, qui s'appelle le bois de Sublaine. Et ce bois de Sublaine, en fait, il est situé d'un côté au nord, il est situé en pas plus de 2 kilomètres de la grande forêt de Renaud-Valdieu.
Oui, alors
et
ça, c'est
au
aussi
sud,
très beau.
Il est situé à 400 kilomètres de la forêt de Bellem. Donc tout ça constitue vraiment un très, très, très bel ensemble qui attire beaucoup les marcheurs d'un peu toutes sortes d'associations qui attirent les cavaliers randonneurs, qui attirent les vététistes, puisqu'il y a beaucoup de circuits différents. Donc ça fait vivre un peu notre village.
Alors la principale famille qui a possédé la seigneurie de Coursereau, c'était quelle famille ?
Eh bien, c'était la famille Girois. Voilà, la famille Girois, c'était les seigneurs de Coursereau et ils étaient rattachés, c'était des vassaux si on peut dire, des seigneurs de Bellem. Voilà, et c'était des vassaux très très guerriers,
belliqueux,
et qui l'ont vigoureusement défendu. D'ailleurs, il y a une anecdote où l'un des membres de la famille Girois, Guillaume, a entrepris une expédition au début du deuxième millénaire pour aller libérer Robert de Bellem, qui avait été fait prisonnier au château de Ballon-Aumaine, dans la Sarthe.
Voilà. Alors, en fait, je crois qu'il y a eu beaucoup de luttes, d'ailleurs, entre ces familles à cette époque.
Exactement. Donc après avoir été des vaillants défenseurs des seigneurs de Belém, l'un des seigneurs de Giroy s'est beaucoup fâché avec le comte de Belém, Guillaume Talvas, et il a été châtié de manière cruelle, ce qui a entraîné des représailles. Enfin, c'était la vie des seigneurs très vaillants de l'époque. Et on peut mieux comprendre l'importance de la seigneurie de Courcerault parce qu'elle se situait juste en face de Corbon, juste en face de la Vauve. Et dans l'histoire du Perche et de la Normandie, lorsque les Anglais, malheureusement, possédaient une bonne partie de la Normandie, leur possession venait quasiment jusqu'à la Vauve. Et les avant-gardes du Perche qui étaient restés indépendants et partie du royaume de France était quasiment à Coussossin, donc en limite de Courcerault.
Oui, d'ailleurs, je crois que à la Vauve, on voit encore la marque des seigneurs sur la chapelle.
Exactement, exactement. Alors, l'église de Courcerault, dont je vous dis qu'elle a eu une grande importance parce que ça faisait partie des possessions de Saint-Germain-des-Prés, a eu ensuite son importance qui s'est poursuivie puisque les seigneurs de la Vauve sont devenus plus ou moins les seigneurs de Courcerault. Et pour la petite histoire, les blasons des seigneurs de la Vauve se trouvent encore visibles dans l'église de Courcerault. Et à ma connaissance, c'est le seul endroit où on les voit. On ne les voit plus à la chapelle du manoir de la Vauve et on ne les voit pas non plus à Corbon.
Donc, il faut absolument aller visiter cette église de Courcerault et c'est ce que nous allons faire dans la seconde partie. Et si vous le voulez bien, nous allons marquer une pause musicale.
Oh,
Je suis toujours avec le général Gilles Gallet et nous évoquons l'église Saint-Pierre de Courcerault. Alors, nous avons évoqué dans une première partie le village et l'identité de ce village qui est vraiment magique dans le Perche de l'Orne. Et cette église, quand on s'approche, c'est vraiment un très vaste édifice et on est même surpris par rapport au petit village qu'est Courcerault. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Gallet ?
Eh bien, c'est tout à fait cela. Quand on entre dans le petit village de Courcerault, on ne peut pas manquer l'église, puisqu'il n'y a qu'une rue dans notre petit village, et que l'on arrive de Bellem ou que l'on arrive de Mortagne ou de Rémalard, on passera forcément devant l'église et on la verra en surplomb, perchée sur son promontoire. C'est vraiment un vaste édifice. On peut se demander pourquoi.
Et oui, c'est ça.
Ben, on peut se souvenir que Courcerault n'a pas toujours été un petit village de 170 habitants, qu'il en a compté pas loin de 800 à la fin du 19e siècle. On peut se souvenir également que c'est une église qui a fait partie des possessions de Saint-Germain-des-Prés, qui a fait partie du prieuré de Saint-Lomer-des-Bois, que ça a été rattaché à la seigneurie de la Vauve. Tout ça, ça a contribué à lui donner un certain renom.
Oui, c'est ça. Voilà. Mais elle a été construite au 12e siècle, puisque c'est vraiment un porche roman. Et à cette époque, au 12e, il n'y avait quand même pas beaucoup d'habitants, j'imagine.
C'est vrai. Alors, l'église, quand on la voit, on est frappé d'un côté par son côté roman, c'est-à-dire un vaste édifice, et du côté nord-est, des toutes petites baies cintrées qui sont typiques de l'art roman. Mais on voit également un clocher assez élancé, qui n'a absolument rien de roman et qui a été rajouté au 19e siècle.
Ouais.
Donc cela fausse un peu la perception qu'on a de cette église.
Ouais.
Elle paraît beaucoup moins ancienne qu'elle ne l'est en réalité. Alors pour reconstituer un peu l'âge de cette église, comme je m'occupe de l'association de sauvegarde du patrimoine de Courcerault.
Oui.
Nous nous sommes très vite penchés sur ce qu'il y avait à faire pour restaurer l'église et nous avons fait appel à beaucoup de spécialistes, à beaucoup d'artisans.
Oui.
Et dans ce cas-là, ce qui est vraiment tout à fait remarquable, c'est que chacun, qui est un grand spécialiste dans son domaine, en voûte, en vitraux,
oui,
en vieilles pierres, en tableaux, amène son expertise et son œil pour dire, eh bien, dans votre église, vous avez tel détail qui correspond à telle époque ou qui illustre telle histoire.
Mmh.
Donc, grâce à l'un d'entre eux, on a pu voir qu'au-dessus du porche d'entrée, il y avait un petit arc sculpté de têtes de chimères. Donc ça, c'est typique du 11e ou du 12e siècle.
Oui.
Donc, pour être modeste, j'ai retenu que l'origine de l'église, ça devait être pas loin du 12e siècle, voilà.
Et en fait, le porche présente aussi une très jolie voussure.
C'est vrai, tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment tout
qui
à fait.
Qui est 12e
tout
aussi.
À fait, voilà, tout à fait caractéristique. Alors, la petite histoire pour le clocher, comme il a été rajouté sur la partie sud de l'église,
oui,
il a masqué ce qui permettait dans les temps anciens de lire l'heure. Voilà.
Ah oui, un cadran solaire.
Exactement, il a masqué le cadran solaire, ce qui fait qu'on a été amené à en remettre un du côté nord, qui bien sûr n'est pas d'une grande utilité,
oui,
puisqu'il ne reçoit pas assez souvent le soleil. Donc ça, c'est pour la première impression de l'église de Courcerault, vaste édifice, le clocher.
Oui.
Et puis, dès qu'on entre dans l'église...
Mais avant encore, j'ai l'impression que c'est à la Renaissance qu'on a dû percer les fenêtres.
Voilà, à la Renaissance, on a percé des fenêtres du côté où la lumière vient,
voilà,
c'est-à-dire du côté sud-ouest. Et donc, ça a un peu enlevé du caractère typique de cet édifice. Néanmoins, deux des fenêtres qui ont été percées ont quand même conservé leurs meneaux et leur réseau, un rinceau gothique qui leur conserve un peu de cachet. Et bien évidemment, comme ces fenêtres ont été agrandies, il a fallu par la suite y mettre des vitraux. Et donc ça s'est fait au 18e, 19e siècle, par l'intermédiaire d'une maison bien connue à Chartres, donc la maison Lorrain. Et donc ce qui frappe quand on entre dans l'église, bien évidemment, cette église, elle est typiquement percheronne, c'est-à-dire qu'elle a une voûte en berceau renversé, elle a une voûte en bois, elle est assez sobre, mais par rapport à toutes les autres églises des villages d'une dimension équivalente, elle est beaucoup plus richement décorée. Par exemple, toute sa voûte est peinte dans son intégralité.
Ah oui.
Et c'est un ouvrage assez remarquable qui est typique, que j'ai rarement vu dans d'autres églises du Perche, peut-être l'une ou deux, mais je ne m'en souviens pas vraiment. Et donc c'est l'œuvre d'un des curés de l'église de Courcerault qui s'appelle l'abbé Vintier.
Oui.
Et qui a été curé de la paroisse à la fin du 19e siècle. Il était le fils d'un menuisier de Longny au Perche. Il a été vicaire de Nocé et à partir de 1885, il a été curé de Courcerault. Et sa passion, comme il avait eu une formation aux Beaux-Arts, sa passion c'était de créer du mobilier liturgique, de belles factures, notamment du mobilier en bois. Donc dans l'église de Courcerault, il a créé et posé toute la voûte.
Ah oui.
Il a peint cette voûte de fresques tout à fait remarquables. Il avait commencé par construire le mobilier du chœur de l'église, c'est-à-dire de très belles stalles. D'ailleurs, quand on entre dans l'église, la première impression, on est saisi par la voûte.
Oui.
Et ensuite, quand on s'avance, on entre dans le chœur qui est une dimension assez importante. Et il y a des stalles de chaque côté qui donnent vraiment l'impression qu'on est dans une église, non pas locale, mais peut-être d'un diocèse ou d'une petite ville, voilà.
Oui, parce que c'est quand même assez massif, une grande,
exactement,
grande église.
Exactement. Donc, il a fait ça. Il a sculpté également la table de communion de l'église de Courcerault.
Et en fait, il a eu les conseils de Philippe de Chenevière, je crois.
C'est cela,
qui
oui.
Qui était...
directeur des Beaux-Arts, oui.
Voilà.
Voilà.
Et qui a habité Bellem, enfin ses descendants habitaient Bellem.
Exactement. Et il n'a pas limité Il n'a pas hésité à faire profiter de ses talents d'autres églises Perche,
ah oui.
et même de Renormandie. Il a fabriqué et posé la voûte du chœur de l'église de Mauves-sur-Huisne. À Longny au Perche, il a sculpté les portes d'entrée de la très belle chapelle Notre-Dame de Pitié et les confessionnaux de l'église Saint-Martin. Il a orné le maître-autel de l'église de Nocé d'un bas-relief en bois. Il a peint deux scènes sur la voûte de l'église de Sevray, près des couchers.
Ah oui, et même un peu plus loin, donc, dans l'ordre.
Voilà, donc il s'est vraiment aventuré. C'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Et pour peut-être terminer sur lui, vers la fin de sa vie, il est entré dans un ordre monastique et il est allé aux Indes britanniques, au Rajasthan, où là, il était vraiment fasciné par l'art local. Et puis, il a également fait profiter les artistes des Indes de ses connaissances en matière d'art liturgique catholique.
Donc, il avait un atelier à Jaipur.
Voilà, il avait un atelier à Jaipur où il est décédé, je crois, 1924.
Alors, si nous venons maintenant, on peut peut-être en revenir à l'église de Courcerault. Eh bien, j'aimerais qu'on y entre et qu'on voit, par exemple, eh bien, le maître-autel.
Alors, le maître-autel, il est constitué d'un grand retable en pierre de style Louis XIII. Donc, on peut y voir quatre colonnades qui sont cannelées et liérées.
Alors, lierré, ça veut dire...
Entouré de feuilles de lierre qui tournent autour de cette colonne. Donc, ça fait un très joli effet. Dans cette église, il y a pas mal d'éléments, pas mal de mobilier qui sont soit monuments historiques, soit inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le retable, par exemple, et le tabernacle sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'autel, de chaque côté de l'autel, donc au-dessus des portes qui mènent à la sacristie, vous avez des très belles cartouches aux armes de la seigneurie de la Vauve. Donc tout cela confère une majesté supplémentaire à ce chœur. Et puis de part et d'autre de l'autel, sur les bas-côtés, il y a deux consoles en bois et en marbre qui, elles, sont classées au monument historique. Donc l'une de style Louis XV et l'autre de style Louis XVI, tous les deux avec des motifs de feuillage.
D'ailleurs, si on regarde la sacristie, il y a aussi des cartouches, on dirait.
C'est ça, oui, c'est ça.
Que représentent ces cartouches ?
Eh bien, donc, comme nous l'avons dit il y a quelques minutes, en fait, ça représente les armes de la seigneurie de la Vauve, puisque la Vauve, c'est un très joli manoir qui est situé à, on va dire, 3 kilomètres de Courcerault. Et les seigneurs de la Vauve ont dû succéder au seigneur de Courcerault dans la suzeraineté locale. D'ailleurs, dans l'église, à un moment, on voit très bien sur le côté un emplacement spécial un peu surélevé où la famille des seigneurs de la Vauve devait se tenir pour suivre l'office.
Ah oui. Alors, quand on en arrive au lambris, qui est absolument magnifique parce que ça avait été justement peint par cet abbé.
C'est ça, oui. Et donc, ça représente des scènes, liturgiques, très imprégnées de la théologie de la fin du 19e siècle. Alors, on y trouve une représentation en image du dogme de la communion des saints, avec des triangles superposés, qui sont le symbole de la Trinité. Il y a également une représentation du purgatoire, où les âmes souffrantes forment la base d'un triangle dont les côtés sont matérialisés par les anges, et d'autres scènes un peu de la même inspiration. Alors ces fresques sont très belles, mais elles commencent à souffrir un peu de l'usure du temps. C'est pour ça qu'avec notre association qui s'appelle Vie et Patrimoine à Courcerault, nous nous efforçons de récolter des fonds, d'attirer l'attention des collectivités territoriales pour ne pas laisser ce petit chef-d'œuvre en souffrance.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons faire une autre émission pour évoquer justement ce que vous faites pour restaurer cette église. Un grand merci, Gilles Gallet. Et chers amis auditeurs, nous nous retrouverons sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci à vous.